La mixité sociale à l'école, pour qui et pourquoi? Comment faire pour ne pas trahir le projet républicain de l'école publique et qu'elle ne soit pas une première expérience de ségrégation, choisie ou subie? Mais introduire de la mixité sociale dans les écoles, c'est un sacré casse-tête tout de même, dans les quartiers populaires, de villes populaires en particulier. C'est pourtant un enjeu de réussite scolaire, toutes les études s'accordent sur ce sujet. La question est aussi politique, sociale, évidemment républicaine. Pour en parler, nous avons choisi de nous pencher sur le cas de la ville de Bondy, en Seine-Saint-Denis. Mais nous vous donnerons plein d'autres exemples à Rennes, Aulnay-sous-Bois ou encore à Montpellier. Bonjour à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, le rendez-vous de l'éducation de France Culture. Au programme de cette émission également, les actualités de Marie-Caroline Missir, de l'étudiant, avec des manifestations lycéennes et une ministre qui joue les good cops, des menaces sur la réforme du collège et des problèmes de remplacement des enseignants. Et puis, en fin d'émission, Libby Cousteau nous racontera sa très intéressante journée à la convention du parti Les Républicains sur l'éducation, avec, vous l'entendrez, un Nicolas Sarkozy très remonté sur le sujet. Rue des Écoles, attachée de production, Laurence Genepin, Alexandra Malka est à la réalisation. À la technique, Jean-Frédéric et Claire Vuillot pour les parties enregistrées et pour le direct. Et pour le direct, pardon, d'Ali Yaha.
France Culture.
Rue des Écoles.
Louise Touré.
La mixité sociale à l'école, un bon investissement pour la cohésion citoyenne, la citoyenneté en général. C'est la question que nous nous posions à Rennes le 23 mars dernier et hier à Bondy dans le cadre des forums publics de Rue des Écoles. Ils sont organisés avec le Conseil national de l'évaluation des politiques scolaires, le CNESCO, la Ligue de l'enseignement et Canopé, éditeur public de ressources pédagogiques. Ces forums visent à mêler chercheurs, professionnels de l'éducation, usagers de l'école et responsables politiques, c'est somme toute ce qu'on fait aussi dans ce studio chaque semaine. C'est ce qu'on a fait hier, donc à Bondy, dans la salle, avec le public, échange toujours passionnant. Mais du coup, j'avais envie de retrouver quelques-uns de ces intervenants d'hier en studio. Étienne Butzbach, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la Ligue de l'enseignement, vous êtes coordinateur du réseau mixité du CNESCO. Voilà, le CNESCO s'intéresse à évaluer ce que c'est que la mixité en France, à quoi elle sert. On a eu l'occasion d'en parler dans cette émission, je l'ai dit. Il y a une petite efficacité scolaire, petite, grande, ça dépend où. Mais la mixité sociale, et c'est toujours la question qu'on se pose, je suis sûre que les auditeurs se la posent déjà, est-ce qu'elle est désirée par les populations, par les usagers de l'école? Par qui et pourquoi?
C'est un enjeu majeur que de rendre justement la mixité désirable. Parce que la mixité, c'est la condition de la citoyenneté. C'est la condition de l'appropriation, finalement, de la valeur d'égalité à travers la rencontre de l'autre, à travers la compréhension de ce qui nous relie, de ce que nous avons en commun, mais aussi de la richesse des ressources que recèle la diversité. Et sur le plan éducatif, c'est aussi un enjeu très important pour les apprentissages et pour la formation des comportements et des attitudes.
Alors on sait que certaines populations fuient la mixité sociale, c'est ce qu'on appelle l'évitement scolaire. C'est ce qui crée des problèmes de ségrégation, enfin pas seulement, hein. C'est surtout l'urbanisation et puis la population des quartiers qui peut être ségrégée par d'autres, des politiques sociales, des politiques urbaines. Mais enfin, cette mixité sociale, elle est fuie. C'est un petit peu l'impression qu'on en donne souvent, nous, les journalistes, par exemple. Est-ce que c'est ce qui domine?
Oh ben, moi, je pense que cette question du culte de l'entre-soi, c'est d'abord le fait d'une très petite minorité, qui sont les catégories sociales supérieures. Et que la recherche de l'entre-soi par une grande majorité de la population aujourd'hui, et plus c'est une manifestation d'un repli, enfin d'une espèce de défensive par rapport à une société qui apparaît comme agressive, etc. Mais une majorité de la population, à partir du moment où elle sait que son enfant, et il faut qu'on prenne au sérieux cette attente des parents, et éduqué dans de bonnes conditions, dans un établissement, etc., une majorité de la population est pour la mixité.
Alors, être éduqué dans des bonnes conditions, c'est aussi un enjeu tout à fait majeur de confiance en l'école. Virginie Blanc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure des écoles, également formatrice. Vous enseignez à Bondy, dans une école qui s'appelle Olympe de Gouges, qui se situe à Bondy Nord.
Et oui.
Un quartier très populaire, d'une ville populaire. Vous la vivez, cette non-mixité sociale, cette absence de mixité sociale, ou vous l'avez vécue?
Oui, alors tout à fait. Donc, Olympe de Gouges est situé à Bondy Nord. On est tout à fait d'accord pour dire qu'il y a une absence de mixité sociale. Donc, la mixité, c'est aussi faire vivre ensemble et faire cohabiter des différences. Donc, nous allons voir ensemble comment et pourquoi et comment finalement elle devient aussi désirable, pour reprendre les propos.
Voilà, et on fait un peu de teasing là, mais il y a toute une histoire entre votre école et Radio France. On en parlera tout à l'heure.
Tout à fait.
Nathalie Sutour, bonjour.
Bonjour.
Vous aussi, vous travaillez à Bondy comme conseillère d'orientation psychologue. Depuis combien de temps vous êtes à Bondy?
Ça fait 18 ans que je travaille à Bondy, 18 ans au lycée Jean Renoir de Bondy, au collège Pierre Curie de Bondy, au centre d'information et d'orientation. Et j'interviens également au collège de la cité scolaire Jean Renoir depuis quelques années.
En tant que conseillère d'orientation, en quoi ce sujet vous concerne ?
Ça me concerne parce que je pense que l'orientation, ça peut être un outil de la mixité sociale. Et puis ça me concerne parce que mon travail au quotidien, c'est de faire avec les élèves, avec leurs familles, des projets d'études ambitieux, de soutenir les ambitions scolaires des élèves et des familles. Ils ont des ambitions scolaires. Éventuellement, de susciter des ambitions scolaires et de rendre toutes ces ambitions possibles. On va avoir aussi des exemples de mixité sociale plutôt réussie dans les établissements dans lesquels j'interviens, en lien avec une dynamique territoriale sur la ville de Bondy.
Voilà, sans dire que tout va bien pour le mieux dans le meilleur des mondes, on s'intéresse aussi aux initiatives positives, celles qui font avancer l'école. Nous aurons aussi, c'est très important, une représentante d'association de parents, Aïssa Sago. Elle sera au téléphone parce qu'on est en direct, parce que c'est dimanche, parce que c'est parfois un peu difficile de venir à la maison de la radio. Aïssa Sago, d'Aulnay-sous-Bois. Je vous propose d'écouter avec moi les informations, les actualités de Marie-Carole Missire, directrice de la rédaction de l'étudiant. Vous allez l'entendre, on a aussi des informations sur la Seine-Saint-Denis. Ce sera à la fin de cette page d'actualité. Encore des manifestations ce mardi pour les lycéens et étudiants et ce samedi pour les salariés et l'ensemble des opposants à la loi El Khomri.
Oui, Louise, une mobilisation de la jeunesse qui dure et se radicalise, même si du côté des lycées, beaucoup moins d'établissements étaient bloqués ce mardi. 34 établissements exactement, a recensé le ministère, contre 176 lycées bloqués le 31 mars. Il faut dire que depuis une semaine, la zone B est en vacances, ce qui plombe forcément les chiffres. Et avec des congés qui occupent tout le mois d'avril, difficile de prédire ce qui va se passer du côté des lycéens. Notons que se greffe à ce mouvement une forme alternative de mobilisation, avec le mouvement très médiatisé Nuit Debout.
Cette semaine marque aussi un tournant, et là on revient à l'éducation nationale pour le devenir de la loi travail.
Absolument, les organisations lycéennes et étudiantes ont été reçues toute la semaine par le gouvernement. Le storytelling gouvernemental fait endosser à la ministre Najat Vallaud-Belkacem le rôle de la good cop, insistant pour recevoir les organisations de jeunesse et forcément de tous les entretiens. Résultat de ces concertations, on s'acheminerait vers une allocation d'aide à l'emploi pour les jeunes boursiers.
Et en matière de storytelling, rien ne vous échappe. Marie-Caroline, la ministre de l'Éducation, on l'a aussi beaucoup entendu cette semaine.
Notamment sur les écoles hors contrat. La ministre souhaite un nouveau cadre pour ces écoles, c'est-à-dire un plus grand contrôle sur leur ouverture. C'est un point aveugle qui montre la difficulté des équipes de l'Éducation nationale à faire face à la recrudescence de ces écoles qui vont des structures comme Montessori à des écoles religieuses rigoristes. Ce sont là des écoles musulmanes qui sont visées par le gouvernement. On en compte une cinquantaine sur le territoire et visiblement leur développement inquiète les autorités. La montée en puissance d'une offre scolaire privée alternative en France est en tout cas à prendre très au sérieux, qu'il s'agisse d'écoles communautaires ou confessionnelles radicales ou d'écoles très sélectes et forcément très cher. C'est un marché assez juteux dans lequel s'engouffrent des groupes capitalistiques aujourd'hui, des fonds d'investissement même. Et je ne suis pas certaine qu'un plus grand contrôle de l'État pourra freiner ce développement.
À suivre donc du côté de la politique, il semble, Marie-Caroline, qu'on soit déjà en campagne en matière d'éducation.
Qui ne trompe pas. Quand la droite s'intéresse à l'éducation, c'est que les élections présidentielles ne sont pas loin. Rien que cette semaine, nous avions une convention sur l'éducation des Républicains, un chat Facebook de Nicolas Sarkozy sur l'école et une tribune de l'ancien président dans le Figaro, où il dénonce l'emprise idéologique de la gauche sur l'école, où il critique l'élaboration des programmes, les pertes horaires avec la réforme des rythmes, bref, j'en passe. Grosse colère de la ministre qui, en forçant peut-être un peu le trait, s'interroge sur France 2. Mais de qui se moque-t-on ? S'est-elle indignée ? Il raconte des bêtises sans nom, par exemple sur l'histoire, quand il dit que dans les nouveaux programmes, on a fait disparaître la chronologie. Non seulement c'est faux, mais c'est ce qu'il avait fait lui, nananère. Donc l'ambiance cette semaine, c'était « tu me cherches, tu me trouves ». Et dans ce débat, l'école, les élèves, l'avenir du système éducatif apparaissent comme un prétexte à un affrontement politique binaire, systématique et parfois un peu stérile.
Et je rappelle qu'on reviendra sur cette convention des Républicains sur l'éducation avec Libby Cousteau. Une information qui n'a pas été commentée par la ministre, c'est un rapport de l'inspection sur la réforme du collège.
Un rapport confidentiel de l'IGAENR, c'est-à-dire l'Inspection Générale de l'Administration et de l'Éducation Nationale, divulgué par la journaliste Soazic Lenevet sur le site Acteur Public. Et ce rapport fait mal parce qu'il souligne que 10 à 25% des établissements rencontreraient des difficultés d'organisation. Comme si le décor était tombé, l'inspection constate désormais la réalité sur le terrain. Elle définit même 3 profils types de collèges, le noyau syndical, la ruralité et les établissements de centre-ville. Le rapport pointe le problème du partage du temps de service des enseignants entre plusieurs établissements et, je cite, « appelle également à la vigilance à l'égard de l'enseignement privé pour lequel la suppression des bilingues a pu constituer un appel du pied pour faire évoluer son offre éducative et récupérer des élèves en classe d'allemand. » C'est dit. Donc le ministère n'a pas réagi, vous l'avez dit, mais cela fait désordre quand officiellement la réforme est en marche, les difficultés appartiennent au passé et qu'il n'y a même pas de scénario pour contourner d'éventuelles réticences. Où est allée la mise en œuvre des EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires? Autre exemple que nous avions souligné dans Rue des Écoles.
Vous avez parlé de l'allemand, Marie-Caroline, et puisqu'on évoque la question des langues, j'en profite pour dire à nos auditeurs que le week-end Shakespeare continue sur France Culture. L'occasion de rappeler également que le niveau d'anglais et des jeunes français laisse toujours autant à désirer.
9 jeunes sur 10 sont mal à l'aise lorsqu'on leur parle anglais dans la rue de manière imprévue. C'est pas moi qui le dis, mais c'est une enquête de l'Office in Wall Street English.
C'est pas de vous dont il s'agit.
Absolument pas. Et les enquêtes réalisées au niveau européen montrent que nous sommes les derniers de l'Union européenne pour la pratique de la langue de Shakespeare. C'est peut-être pour cela que le ministère organise la première semaine des langues à l'école du 9 au 13 mai 2016.
Wonderful ! Un mot sur le rapport Innocenti. Là, c'est moins formidable. Un rapport de l'UNICEF sur les inégalités entre les enfants dans le monde.
Tous les 18 mois, ce centre de recherche de l'UNICEF, Innocenti, donc présente un bilan sur le bien-être des enfants et des adolescents, leurs conditions de vie, leur réussite scolaire, dans tous les pays de l'OCDE et de l'Union européenne. On ne peut pas divulguer toutes les conclusions car le rapport ne sera publié que jeudi. Mais une fois de plus, la France a des résultats comparables à des pays beaucoup moins prospères. Elle se distingue par exemple par des écarts importants entre les catégories les moins favorisées et le reste de la population.
Et à ce qu'on m'a dit, ça ne concerne pas que les résultats scolaires. Marie-Caroline, l'heure est grave. Va-t-on un jour percer le mystère de l'algorithme APB, admission post-bac, un mystérieux logiciel qui concerne tous les élèves de terminale.
Et ça occupe apparemment beaucoup les lycéens, au point que certains sont bien décidés à révéler le secret de l'algorithme d'APB, nous apprend Rue 89 cette semaine. Ceci dit, cet algorithme n'a rien de secret, puisque sur l'étudiant.fr, par exemple, nous vous expliquons comment il fonctionne. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez complexe, mais vous trouverez sur le site un article qui vous explique comment marche cet algorithme pour les formations sélectives, pour les licences, comment s'enregistrer, comment APB fait matcher les vœux des candidats, sélectifs ou non, et les réponses des établissements. Bref, vous allez tout comprendre. Je conviens quand même avec vous que la procédure n'est pas toujours limpide pour les candidats et pour leurs parents surtout, mais encore une fois, le logiciel n'est pas secret, n'est pas caché, puisque Thierry Mandon lui-même, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, a parlé ici même à Rue des Écoles de le rendre public.
Et oui, c'était dans cette émission. Enfin, un sujet qui revient, le non-remplacement, encore et toujours, des professeurs absents avec des chiffres de la FCPE. On en avait également parlé ici même avec Liliana Moyano, la présidente de la Fédération de parents d'élèves. Quoi de neuf, Marie-Caroline ?
Ça ne s'arrange pas. 20 000 journées d'absence ont été constatées et une mobilisation nationale les 7 et 21 avril prochains où tournera le hashtag « Y a pas de prof ». À noter quand même, c'est en Seine-Saint-Denis, dans l'académie la plus touchée par ce problème, que les parents se mobilisent le plus. Mise en commun des informations, publication d'une carte interactive des parents qui défendent l'école publique, mais qu'ils sont quand même très inquiets de ne pas voir la situation évoluer malgré le concours spécifique qui a été mis en place dans cette académie et le recrutement de nouveaux enseignants. Journée d'action donc à prévoir le 13 avril dans cette académie et que l'on suivra attentivement.
La journée d'action organisée par l'association Bonnet d'âne. À la semaine prochaine, Marie-Caroline.
À la semaine prochaine.
France Culture.
Rue des Écoles.
Louise Touré.
De retour avec mes invités, nous parlons de la mixité sociale à l'école, sujet difficile dans les quartiers populaires où il n'y a justement pas de mixité. Et puisqu'on parlait de la Seine-Saint-Denis et du problème du non-remplacement du personnel enseignant, des absences et des élèves qui se retrouvent sans prof, Virginie Blanc, vous êtes, vous, enseignante à Bondy, en Seine-Saint-Denis,
oui.
À l'école élémentaire. Voilà, quand vous entendez que des parents vont se mobiliser, qu'on compte des milliers de jours d'absence. C'est une situation de tension dans laquelle vous trouvez également ?
Alors, pas tout à fait, mais j'en entends effectivement parler puisque je suis formatrice et je suis confrontée effectivement, pas quotidiennement, mais je suis confrontée à ce manque de remplacement. J'entends effectivement les parents aussi à droite à gauche. On a quand même construit un second concours. Je pense qu'il faut le temps à l'éducation nationale de pouvoir... étayer donc en remplacement il faut le temps de
oui,
voir venir les enseignants les nouveaux professeurs donc ça prend du temps mais je comprends aussi les parents qui craignent que leur enfant n'ait pas l'enseignement nécessaire.
Ça joue aussi sur la réputation de l'école publique en Seine-Saint-Denis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'absence dans le privé, mais on parle davantage de celle du public. Virginie Blanc, votre école, Olympe de Gouges, et se situe dans un quartier populaire d'une ville populaire, Bondy, je le rappelle. Mais tout de même, voilà, vous avez réussi, vous, toute l'école, hein, l'équipe enseignante et la direction, à rendre cette école plus désirable. Et ça s'est fait aussi, on va donner cet exemple, avec l'arrivée de la maîtrise de Radio France, ça fait une dizaine d'années,
oui.
À l'école. Qu'est-ce que ça a apporté ?
Alors, à l'origine, la maîtrise Radio France a été organisée, donc intégrée à cette école Olympe de Gouges, pour permettre à des élèves de quartier REP+, de bénéficier d'une formation musicale de haut niveau.
Donc REP+, réseau d'éducation prioritaire, plus, c'est-à-dire
encore plus difficile,
encore plus prioritaire.
Voilà, tout à fait, pour être très clair. Et donc leur permettre aussi d'aborder un répertoire musical très exigeant et très varié. Donc on est aussi sur l'exigence. Alors effectivement, ça marche très très bien puisque notamment les parents de Bondy Sud veulent venir à l'école Olympe de Gouges.
Décrypter Bondy Sud, c'est le quartier, la partie un peu plus favorisée de Bondy.
Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'on a Bondy Sud, Bondy Nord, c'est une même ville, mais quand même divisée en deux. Au-delà de géographique, on a aussi le Bondy Nord, c'est plutôt la violence, la délinquance, hein, donc que ce soit très clair, c'est comme ça qu'on est aussi connoté. Hein.
Ouais, vous parlez de l'image, des représentations qu'on en a,
oui.
Qu'on casse.
Un peu
avec
l'imaginaire
des...
aussi, hein, l'imaginaire des parents, l'imaginaire des gens qui sont hors de Bondy également. Donc,
puisque vous y travaillez, c'est
moi,
une
j'y
réalité
travaille,
que,
ouais.
Que vous connaissez. Il faut séduire les parents, il faut rendre l'école désirable avec de la musique, par exemple. C'est une très jolie façon. C'est ça qui marche, c'est se faire connaître.
Je pense que pour les parents, il faut aussi leur permettre de comprendre ce qu'il se passe à l'école. Donc ouvrir l'école et la maîtrise Radio France permet cela en proposant des concerts. Les professeurs de la maîtrise Radio France ouvrent aussi leurs portes aux enseignants. Parce qu'il y a aussi une méconnaissance, c'est-à-dire que dans le recrutement, Il y a aussi des méconnaissances. Et quand le recrutement s'effectue à partir du CP, lorsque les professeurs de la maîtrise vont chercher les petits élèves de CP dans les autres écoles de REPLUS, c'est compliqué pour les autres enseignants. Pourtant, la maîtrise de Radio France, je pense que c'est une grande chance pour les élèves et également une grande chance pour les parents et une grande chance pour le quartier nord de la ville.
Donc on a aussi changé de logique avec ce projet. Il peut y avoir des tas de projets. C'est d'ouvrir, on l'entend bien, c'est d'ouvrir les portes de l'école, de les ouvrir sur le quartier, sur la ville, à tous les parents. Nathalie Sutour, je me tourne vers vous, conseillère d'orientation. Alors, le rapport avec la mixité sociale, on l'a un petit peu entendu. Là aussi, à Bondy, il y a des projets bien particuliers qui visent un peu à redorer le blason des écoles. Vous faites partie, avec le lycée Jean Renoir, où vous travaillez des conventions ZEP de Sciences Po, c'est-à-dire cette filière parallèle qui permet à des élèves issus des quartiers populaires de passer un concours spécifique pour cette grande école. Qu'est-ce que ça a changé au lycée Jean Renoir ?
Une des premières choses que ça a changé, c'est que ça a donné de l'ambition scolaire aux élèves et à leurs parents, parce que les parents sont des partenaires vraiment importants. Et c'est un des enjeux de leur faire comprendre comment on va travailler cette question de la mixité à l'école. Tout d'un coup, des portes s'ouvraient et surtout, on leur faisait envisager des pistes qui étaient vraiment possibles, avec des exemples d'élèves qui avaient vraiment intégré Sciences Po.
Ça... Mais en fin de compte, peu d'élèves sont admis.
Peu d'élèves sont admis, mais il y a une dynamique beaucoup plus large qui est créée, c'est-à-dire que préparer Sciences Po, ça ouvre beaucoup l'esprit de nos élèves, ça nourrit leur curiosité d'esprit, ça nourrit leur curiosité en termes d'orientation et de perspective de formation supérieure. Moi, avec cette convention et la dynamique que ça a créée, j'ai vraiment vu mes élèves envisager autrement l'orientation et s'autoriser à envisager des filières dans lesquelles ils ne seraient pas allés spontanément et dans lesquelles les parents ne les auraient pas forcément soutenus dans l'enseignement supérieur. Ça crée aussi une dynamique au niveau du lycée, c'est-à-dire que sur la dynamique de cette convention d'éducation prioritaire, les professeurs ont innové, ont eu des pratiques pédagogiques innovantes. Ça a contribué aussi à stabiliser un peu plus l'équipe enseignante. Ça a donné confiance aux parents dans les perspectives que ce lycée allait offrir à leurs enfants. Donc en termes d'attractivité et de désirabilité, le lycée Jean Renoir, je pense, y a gagné. Et puis, ça a permis aussi aux professeurs des sept collèges de secteur sur lesquels nous recrutons d'avoir là encore confiance dans les perspectives que le lycée Jean Renoir pouvait offrir aux élèves. Donc tout ça, c'est une dynamique positive pour que les élèves envisagent bien sûr cette filière prestigieuse, mais aussi beaucoup d'autres. Des classes préparatoires aux grandes écoles, des écoles de journalisme, des écoles de communication et s'emparent de cette question aussi pour progresser dans leurs apprentissages.
Désirabilité, ouverture, on l'entend, ce sont des ingrédients pour favoriser la mixité sociale. Il y en a d'autres. Étienne Butzbach, vous qui suivez ce sujet pour le CNESCO, quels sont-ils ? Comment on mène une politique de mixité sociale quand tant de parents restent encore et toujours tentés par le contournement ?
Alors, la politique de mixité sociale, effectivement, c'est toute une série d'ingrédients qui font que cette alchimie peut réussir. Le premier, c'est d'abord de penser que la mixité c'est pas seulement la mixité sociale qu'on cherche aussi à développer. C'est la mixité scolaire, c'est aussi la mixité ethnoculturelle. Il semble important que ces dimensions, nous les ayons aussi bien en tête. Deuxième élément, c'est qu'il faut qu'il y ait une approche globale et systémique de ces questions de mixité. On parle beaucoup aujourd'hui de l'expérimentation qui se fait en direction des collèges. Il faut bien voir que si on n'intervient pas dès l'école primaire.
Expérimentation sur la carte scolaire menée par le ministère.
Et il nous semble très important, CNESCO, qu'il y ait bien ce continuum entre l'école primaire, le collège, voire le lycée, ce qui nécessite une articulation non seulement entre l'éducation nationale et les conseils généraux, mais aussi avec les communes, les intercommunalités, la région. Cette approche globale et systémique, c'est aussi bien mettre dans le coup, si je puis dire, l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire non seulement les institutions dont je viens de parler, mais aussi les enseignants, les parents, les associations d'éducation populaire, parce qu'il est très important important aussi de voir que cette question de mixité ne se joue pas seulement dans le temps scolaire, mais aussi dans le temps ce qu'on appelle l'éducation non formelle, c'est-à-dire le périscolaire, l'extrascolaire, et là les associations comme la Ligue d'enseignement, les Franca peuvent jouer un rôle essentiel. Je voudrais terminer sur cette question d'approche globale en disant qu'il y a donc une palette d'outils à utiliser, c'est aussi bien la sectorisation ou l'aménagement urbain. Hier à Bondy, les maires présents évoquaient comment ils concevaient les nouveaux quartiers et comment cette question éducative était au cœur de leur conception aussi de l'aménagement d'urbanisme. La mixité, ça se pense déjà dans l'aménagement urbain. C'est aussi l'attractivité des établissements, si on en a parlé, et notamment avec la question de la formation des enseignants et la mixité des équipes d'enseignants.
On va en parler.
C'est aussi donc l'implication des parents, c'est aussi tout ce qui peut se faire en termes de rencontres, et qui, les rencontres n'étant pas la juxtaposition de populations d'origines différentes, mais véritables rencontres qui favorisent l'échange.
Ce qui peut se faire, mais ne se fait pas toujours. On l'entend, on en appelle à la mobilisation des parents. Il faut quand même noter que ces parents ne se sentent pas toujours forcément conviés à ce débat, qu'il a fallu qu'ils se mobilisent. Aïssa Sago, c'est votre cas. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au téléphone. Vous avez monté une association Femmes Relais, entre l'école et les familles pour privilégier aussi un rapport un peu plus harmonieux avec l'école. Il y avait beaucoup de travail.
Oui. Voilà. Bonjour et merci, merci de m'avoir donné la parole dans ce débat parce que c'est pas toujours le cas. Hein. On nous sollicite beaucoup, mais un petit peu, je pense, dans l'ombre. Et quand on parle des difficultés, quand on parle de l'école, on parle des familles, on parle des enfants, en général, c'est d'autres qui en parlent. Les concernés même ne sont pratiquement jamais présents. On écoute. Et alors que nous, on est dedans, on est à l'intérieur, on a le vécu de tous les jours. Et c'est pour ça que en 2000, j'avais décidé de créer cette association. Pour justement casser cette barrière, ces préjugés qu'il y a envers les familles, qui souvent on dit d'eux sont démissionnaires, ne participent pas à la réussite de leurs enfants. Mais je voulais montrer que derrière, il y a autre chose et qu'il y a une barrière et que cette barrière-là, il faut peut-être une passerelle. Et la passerelle, c'était l'association qui pouvait faire l'intermédiaire entre l'école et ces parents-là qui sont souvent très, très, très éloigné de ce système.
Alors, je précise que vous êtes à Aulnay-sous-Bois. Je voulais interroger avec vous cette nouvelle forme de mobilisation des parents d'élèves. Et je voulais vous faire écouter un sociologue, Choukri Benayad, qui a travaillé sur la question. Il était au forum de Rennes. Il s'exprime donc, et c'est une vidéo que nous avons prise sur le site de notre partenaire Canopé, sur cet engagement renouvelé.
Les collectifs mobilisés sur les questions scolaires, il en existe depuis assez longtemps. Ils reviennent de façon cyclique, par exemple, dès lors qu'il y a des fermetures de classes, des mesures de cartes scolaires, des choses de cet ordre-là. C'est assez classique. Là, ce qui n'est pas classique dans la période récente, c'est le mot d'ordre, qui est un mot d'ordre qui est citoyen, qui est plutôt généraliste et qui consiste à se mobiliser, par exemple, en faveur de la mixité sociale. On est là devant quelque chose qui, jusque-là, n'était pas encore apparu. Bon. D'autre part, ce qui est original dans ces collectifs, c'est que une part d'entre eux, en fait, sont constitués de personnes qui subissent eux-mêmes la ségrégation. Et tout se passe comme si, en fait, le travail des institutions n'était pas suffisamment performant ou rassurant les concernant pour que ces collectifs considèrent qu'il faut qu'ils prennent eux-mêmes quasiment les choses en main parce que leurs revendications, finalement, ne sont pas reprises institutionnellement depuis de longues années.
Aïssa Sago, on entend que le constat de Choukri Benayad, chercheur sociologue sur l'école, rejoint le vôtre. On a besoin de revivifier cet engagement qui est aussi, et vous allez me dire si c'est ce que vous pensez, un engagement citoyen, un engagement dans la cité, pour l'école.
Oui, au départ, quand on a commencé, c'était pas du tout dans cet objectif-là, mais après, c'est vrai que comme c'est parfois il y a des mots à la mode qui sortent, donc du coup, voilà, on met ça dans l'engagement citoyen, mais en même temps, c'est aussi l'engagement pour la réussite de nos enfants et aussi faire tomber les préjugés et la stigmatisation qu'il y a à travers les événements, les grands événements qui se passent aujourd'hui, comme par exemple les émeutes en 2005 ou les attentats, qui sont tout de suite similés à ces élèves-là, et on parle de l'école comme si c'était à l'école que tout ça leur a été inculqué. Voilà. Donc du coup, c'est ce qui amène aussi beaucoup de parents à fuir les écoles dans les quartiers, à fuir même la cité. Et du coup, toutes ces personnes qui cumulent toutes ces difficultés se retrouvent entre eux et on crée des aides plus, des raids plus pour encore plus enfoncer la difficulté tard, parce que du coup, ces élèves-là, parfois, ça arrête qu'au bac, hein, parce que c'est pas la peine de monter des dossiers pour qu'on envoie dans des universités où on dit c'est des élèves qui viennent de RED+ et qui sont pas acceptés. Donc il y a aucune ambition pour ces élèves-là derrière quand ils se voient faire pratiquer leur stage de troisième dans l'association du quartier ou c'est chez Sandwich à côté. C'est pas très ambitieux, quoi. Voilà.
On marque une courte pause.
Personne n'oublie rien, disait-elle en chemin. S'il faut jeter sa vie au-delà des orties, où est la poésie? À chaque jour sa peine, ne dis pas que tu l'aimes. À chaque nuit sa joie, blottie au creux des bras.
Tellier sur France Culture, il est 17h passé de 31 minutes. Vous écoutez Rue des Écoles. Nous parlons de la mixité sociale à l'école, dans les quartiers. L'absence de mixité aussi. Est-ce qu'on peut faire? Comment on se mobilise dans les écoles élémentaires, dans l'orientation, au sein de projets politiques plus vastes? Et puis on a entendu Aïssa Sago, parent d'élèves, présidente d'une association Femmes Relais et Médiateurs Interculturels, très mobilisée pour la mixité, qui combat aussi un certain nombre de stéréotypes, par exemple dire que les parents des quartiers populaires sont tous des missionnaires. La ségrégation, ça peut être un énorme problème. On l'a vu à l'occasion d'autres mobilisations. Étienne Butzbach, je voulais qu'on revienne avec vous sur les maires du Petit Bar à Montpellier.
Je crois que c'est très très important ce que nous disent les maires du Petit Bar, ce que reprend d'ailleurs Choukri Benayed et aussi la Aïssa Sago d'une certaine façon.
Qu'on a entendu.
Ce qui est très important, c'est de dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, dans les catégories populaires aujourd'hui, il n'y a pas que le communautarisme. Alors il faut pas nier le fait qu'il y ait effectivement ces dérives-là, mais il y a aussi une partie de la population qui dit c'est assez d'être traité comme des bannis de la République. Alors, c'est assez de dire que la République s'arrête à nos quartiers, qu'il y a le collège des Marocains, qu'il y a le collège
école. Voilà, ça c'était un peu l'histoire de ce quartier du Petit Bar à Montpellier. Est-ce qu'on peut décrire, peut-être que tous nos auditeurs ne se souviennent pas de ce cas qui a été assez médiatisé l'année dernière, de mobilisation pour un collège dans lequel se retrouvaient tous les Marocains, en fait, d'un quartier de Montpellier.
Des mères qui disent effectivement, nous ne voulons pas que nos enfants soient élevés entre nous. Nous sommes en France, nous sommes Français, et nous souhaitons qu'effectivement, les enfants puissent accéder à l'éducation de la République. Et il faut prendre très au sérieux cette demande de la République, parce que aujourd'hui, ce qui fragilise la République, justement, c'est que trop souvent, sur le terrain, ce qui se passe est en contradiction avec cette valeur d'égalité qu'on brandit. Donc je pense que nous pouvons faire front et nous appuyer sur cette mobilisation dans les quartiers, mais cela exige que la réponse de l'éducation nationale, que la réponse des collectivités territoriales soit à la hauteur. Je pense que c'est vraiment un défi très important pour les mois et les années qui viennent.
Aïssa Sago, de votre côté aussi, il y a quelque chose d'assez peu supportable dans cette ségrégation, en fait, de se retrouver tout simplement dans des écoles dans lesquelles absolument tous les élèves sont d'origine étrangère.
Oui, complètement. C'est ce qu'on remarque. Moi, à l'association, tous les soirs, on accueille des enfants en soutien scolaire. Et tous ces enfants-là sont soit d'origine malienne, soit maghrébine. On a monté un groupe de théâtre pour justement essayer, entre guillemets, faire de la mixité avec une autre association qui est dans le tube de Lenay, qui s'appelle le CREA et qui monte des grands spectacles avec des enfants. Donc cette année, on a pris le pari de vouloir mélanger ces enfants-là. Donc moi, j'ai que des enfants maliens qui participent, donc que des enfants noirs. Et puis de l'autre côté, bah, il y a que des enfants blancs. Donc du coup, voilà, nous, ça nous au départ, on avait un petit peu souri, mais aujourd'hui, je me dis, voilà, c'est une bonne idée. C'est l'idée, c'est que ces enfants-là qui sont dans le sud de Lenay puissent venir dans le nord, parce que pour certaines personnes du nord de Lenay, c'est un autre pays, quoi. On est même pratiquement pas en France, puisque voilà, c'est en bas et l'autre c'est en haut, et faire rencontrer ce deux publics et même les enfants, on a tout de suite constaté que dès le petit âge, ben ça commence à faire la différence. Et ce pari là, ben on va le continuer jusqu'au mois de mai, on donnera ce spectacle là. Mais pour moi, c'est pas toujours aux personnes qui sont dans ce quartier-là d'aller chercher la mixité ou d'aller ils sont en demande, bien sûr, aussi. Ils ont envie de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Ils ont envie d'avoir les mêmes prestations pour leurs enfants. Ils ont envie de la réussite de leurs enfants. C'est que tous les jours, c'est les demandes.
Voilà. Alors, on a eu un petit problème avec le téléphone. Un militantisme et un activisme forcené pour permettre à des enfants de rencontrer un minimum de mixité sociale. Alors si on peut rencontrer une forme de mixité, mais un peu par défaut à l'école, et on en a parlé hier à Bondy, c'est que parfois tous les élèves sont d'origine immigrée quand les professeurs, eux, sont blancs, viennent d'un peu partout en France, mais finalement le contraste peut paraître saisissant dans certaines écoles sur ce sujet, Virginie Blanc.
Oui, c'est-à-dire que hier,
professeur des écoles, je le rappelle.
Oui, donc hier un débat s'est opéré par rapport à la mixité dans les équipes enseignantes. Donc une personne expliquait que peut-être qu'il fallait éviter cette mixité au sein d'une équipe enseignante, et je pense le contraire. Donc nous sommes dans une formidable mixité au sein de l'équipe Olympe de Gouges, déjà de par notre métier. Donc certains sont donc enseignants, d'autres enseignants fonctionnaires stagiaires, donc ils apprennent. Et comme je l'ai stipulé tout à l'heure, nous avons la maîtrise Radio France, donc ce sont des professeurs de Paris.
Mais vous l'avez dit vous-même aussi hier, quand un professeur stagiaire arrive avec son petit accent du sud,
oui.
et les élèves, voilà, ils sont devant quelqu'un qui est très halogène pour eux.
Je pense que c'est un choc des deux côtés,
oui.
Hein, vraiment un choc des cultures. Les élèves pensent parfois que c'est une langue étrangère, et de la part du professeur qui vient de province, c'est également un choc de se demander, il se pose la question, comment je vais faire? Comment je vais enseigner? Donc comment je vais m'approcher, finalement, me rapprocher de ces élèves-là? Donc c'est parfois compliqué de deux côtés.
Étienne Butbach.
Non, mais je crois qu'on touche du doigt le fait qu'une politique de mixité, il ne faut pas seulement la décréter. Alors il faut la décréter, il faut l'afficher par la loi, par le rôle de l'État et des collectivités, mais il faut surtout l'accompagner. L'accompagner, on le voit bien au niveau des enseignants, s'il n'y a pas une formation de ces enseignants qui sont placés dans une situation qui ne connaissent pas, des populations qui ne connaissent pas. C'est-à-dire, il faut arriver à décrypter ces choses-là. Donc le rôle de la formation dans les ESP, la formation continue, est essentiel. Et aussi le fait des équipes mixtes. Ce que j'avais trouvé très intéressant dans l'itinéraire de Virginie, qui est en face de moi, c'est effectivement qu'elle vient des cités, mais elle s'est formée, elle a acquis les réflexes de l'enseignant. Elle peut aussi aider à décrypter vis-à-vis de ses collègues les codes. Mais c'est important que les enfants s'y rencontrent d'autres jeunes, d'autres milieux. Et l'école devrait être aussi ce creuset. Avec un des problèmes sur la Seine-Saint-Denis, qui est la question de la façon dont on fidélise un peu les populations d'enseignants et qu'on arrive à les stabiliser. Et on voit bien que là, il y a un rôle très important de l'éducation.
De la Seine-Saint-Denis et par extension de beaucoup de zones en France, quartiers populaires, en banlieue, mais aussi en zone rurale, quand les conditions pour enseigner deviennent un peu trop difficiles. Nathalie Sutour, vous vouliez intervenir, je le sais, sur les propos qui ont été tenus sur l'orientation. C'est bien normal puisque vous êtes conseillère d'orientation. Et je rajoute un élément. Gilles Kepel, vous s'en souvenez, on vous le raconte tout le temps, on vous le rappelle tout le temps, avait publié un ouvrage, 93, c'était il y a 3 ans, je crois. Il parlait de la Seine-Saint-Denis et de la figure du conseiller d'orientation. Figure détestée car représentant quelque chose d'assez exotique comme vision du futur, du travail, du métier qui correspond pas de vivre les élèves. Et puis aussi, on l'imagine, figure très exogène dans son quotidien. Les conseillers d'orientation vivent pas tous la même réalité que celle des élèves au quotidien et parfois la connaissent peut-être un peu mal. Donc sur cette question aussi.
Alors je voulais réagir avant sur ce que venait de dire Monsieur Butzbach sur l'accompagnement nécessaire pour faire vivre la mixité. Un des volets de cet accompagnement, pour compléter ce que dit Madame Sogo, c'est l'accompagnement des familles, pour que les familles puissent être accompagnées et avoir les codes de l'école. Dans un autre collège à Pierre Curie à Bondy, on accueille dans un atelier sociolinguistique des mamans non francophones pour leur donner les codes de l'école sur des temps d'apprentissage au collège.
Ah ben, j'en profite pour dire qu'on mettra en ligne le livre La journée de mon enfant à l'école. Ça, c'est une initiative rennaise, c'est Cécile Buaja, et c'est pareil, c'est une association de parents qui a dit, bon, il faut peut-être tout réexpliquer pour ouvrir un petit peu l'école. Certains parents ne comprennent tout simplement pas bien le fonctionnement de cette institution compliquée.
Et je pense que l'incompréhension pour l'école, bah, c'est aussi une partie de l'incompréhension, c'est l'incompréhension sur l'orientation. Quand on parle d'orientation, on mélange beaucoup de choses. On mélange ce qu'on pense être un choix de métier. Or, l'orientation scolaire telle que je la pratique et mes collègues également au quotidien au sein du service public d'orientation, c'est avant tout ouvrir le champ des possibles, accompagner des parcours de réussite, c'est-à-dire accompagner cet élève vers l'obtention d'un diplôme, accompagner en faisant connaître des filières, accompagner concrètement sur des procédures. Je ne conçois pas de faire connaître une filière d'études à un élève et qu'il ne puisse pas être admis dans cette filière parce qu'il a loupé la date de dépôt du dossier. Accompagner sur AffelNet, dont on va parler, accompagner sur APB, dont vous avez parlé. Les élèves, les familles, décrypter, décoder, ça c'est important. L'orientation, c'est certainement pas enfermer un élève de 14, 15 ou 18 ans dans un choix de métier, et c'est absolument pas ce qu'on leur demande. Mais dans l'esprit des familles, dans l'esprit de certains adultes, dans l'esprit de certains enseignants, c'est ce choix-là qui doit être fait. Avec tout ce que ça comporte d'inquiétude quant à l'avenir, des métiers dans lesquels ils vont pas trouver de travail, le chômage dont on sait qu'il est massif dans les quartiers populaires. Moi, je dis toujours, je peux pas avoir en tête cet élément-là, qui est une réalité, hein, de Monsieur Kepel, si je veux aller travailler tous les matins. Sinon, je fais autre chose. Moi, je peux travailler qu'avec des gens qui me font confiance, et toute seule, je ne peux pas travailler. Pour accompagner les élèves et les familles vers des projets d'études ambitieux sur des parcours réussis, j'ai besoin de la confiance des élèves et des familles. J'ai besoin de la confiance des équipes, les professeurs, les CPE, les chefs d'établissement avec qui je travaille au quotidien. Parce que c'est aussi dans l'échange qu'on va faire ces parcours avec les élèves. Comment ils vont les accompagner pour mener à bien ces parcours? Comment moi je vais pouvoir être en soutien pour informer les équipes sur ces parcours et ces procédures?
Question de confiance absolument centrale. On a parlé de la mixité sociale et de sa relation finalement avec la citoyenneté, avec la mobilisation, par exemple, on a entendu, des associations de familles dans la vie de la cité, et particulièrement pour l'école, qui est le lieu aussi, on l'a entendu, de toutes les inquiétudes. Virginie Blanc, si je vous ai invité aussi, c'est parce que vous avez un projet tout à fait dynamique sur le sujet, un projet qui touche à la fois la mixité sociale et les valeurs de la République. Vous allez tout nous expliquer, mais on va écouter un petit extrait. Je rappelle le nom de votre école, Olympe de Gouges.
Difficile d'être une femme en politique. Elle lutta pourtant pour les droits des femmes. Avec sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle s'est montrée critique. L'écriture devant son arme.
Virginie Blanc, Vous faites chanter vos élèves, vous les faites chanter une chanson à la gloire de l'âme de gouge, très bien. En quoi ce projet s'inscrit dans une démarche de cohésion sociale, d'enseignement des valeurs de la République, enfin, je vous écoute.
Alors, ce ne sont pas mes élèves, ce sont les élèves d'une collègue. Donc, effectivement, c'est moi qui ai coordonné ce travail. C'est un projet qui a été lancé par les ateliers Canopée. Donc c'est la saison 3 et donc le travail, c'est l'objectif, c'est d'élaborer un web documentaire. Donc que nous soyons élèves, parents ou professeurs, j'aurais tendance à dire que chacun d'entre nous, il a fallu s'adapter et s'engager. Donc je reprends ces deux mots suite au débat qui vient d'avoir lieu. Alors maintenant, pour faire une focale par rapport au projet, donc ça s'inscrit, donc on a voulu en fait rendre hommage à Olympe de Gouges qui incarne les valeurs de la République. Et donc on a travaillé à travers la devise française, liberté, égalité, fraternité. Et chacun des professeurs, qu'ils soient de la petite section, en petite section ou au CM2, tous les enseignants se sont engagés, y compris les professeurs de la maîtrise, pour travailler sur différents principes. Donc, par exemple, vous avez, on vient d'entendre une séquence sur la liberté d'expression, mais il y a également le harcèlement, ou l'intégration des élèves porteurs d'un handicap, ou l'esclavage, enfin différentes thématiques.
Ah oui, vous avez fait travailler vos élèves sur le code noir.
Oui, tout à fait.
À l'école élémentaire.
Tout à fait, en CEM. Et oui.
Et qu'est-ce que ça modifie dans leur représentation? Finalement, on peut faire aussi des cours d'éducation morale et civique, des cours en racontant ce que sont les institutions de la République. Pourquoi vous avez choisi ces pédagogies actives?
Alors, je pense que la pédagogie de projet permet à chacun des élèves de s'engager dans un travail. Donc, il est acteur de ses apprentissages et ça donne du sens aussi, du sens dans ce que l'on apprend. Donc c'est vrai qu'on a un programme qui est donné, un cadre qui est donné par l'éducation nationale, mais l'objectif étant de lier les disciplines et donner du sens aux apprentissages, a fortiori dans les quartiers REP+, il me semble que c'est très important et ça motive chacun des élèves.
Bon, Jean, on donnera plus d'éléments sur le site de France Culture. J'en profite aussi pour dire que le CNESCO, qui est partenaire donc de ces fameux forums que nous organisons avec Rue des Écoles, sortira une grande enquête sur l'éducation à la citoyenneté à l'école. C'est mardi, donc il y a un embargo, comme on dit dans le milieu de la presse. Mais ce qu'on entend, c'est déjà que les Français plébiscitent ces cours d'éducation civique et l'éducation à la citoyenneté en général. C'est la dernière ligne droite de l'émission. On va retrouver Libby Cousteau, notre chroniqueuse grand reporter à l'Express. On quitte Bondy pour le siège de l'UMP où se déroulait un événement qui intéressait beaucoup Rue des Écoles. Libby, vous avez assisté mercredi dernier à la Convention des Républicains sur l'éducation.
Il est notable, Louise, que l'école passionne la droite. Une droite décomplexée sur l'éducation et qui répétait ses fondamentaux bien connus sur la question en durcissant un peu le ton. Petit retour en arrière, se positionner sur l'école, c'est devenu un must pour les impétrants de Les Républicains. On se souvient des prises de position de Bruno Le Maire pendant la réforme du collège.
Oui, il était venu dans l'émission.
Et nous avions aussi longuement débattu du livre d'Alain Juppé sur l'école, Mes chemins pour l'école, en septembre 2015. On doit aussi évoquer, pour être honnête, le travail programmatique très exhaustif de François Fillon. Et donc, mercredi, nous écoutions les propositions de Nicolas Sarkozy. Ce Nicolas Sarkozy qui concluait toute une matinée de table ronde. Pas vraiment de débat, mais une succession de témoignages ou d'opinions données par un proviseur, un ancien recteur, des professeurs et des personnalités politiques, députés ou anciens ministres même, comme Pierre-André Périssol. Quatre thématiques étaient à l'ordre du jour. L'établissement, soit la cellule de base de l'éducation, l'enseignant, la réussite et enfin l'enseignement supérieur.
Pierre-André Périssol, ça nous rajeunit pas, Libby. Que retenir de cette matinée?
Alors, sur l'établissement, autonomie encore, encore et toujours. Les participants sont partisans de confier au directeur d'école primaire un statut et une autorité sur ses collègues, ce qu'il n'a pas aujourd'hui, comme vous le savez. Seule façon, je cite, de passer d'une fonction d'exécution à une fonction d'innovation, a déclaré la députée Annie Genevard, grande organisatrice d'ailleurs de la convention. Car les enseignants feraient montre d'attitudes infantiles.
Infantiles.
Dû, selon les participants, à un système beaucoup trop centralisé. Ceci étant, ce n'est pas totalement faux, hein, le système ultra-centralisé. La déconcentration donc et l'autonomie, c'est la clé. Alors au-delà des dénonciations habituelles, corporatisme des syndicats, baisse de niveau, la formation des enseignants a donné lieu à plusieurs propositions, y compris de la part de Nicolas Sarkozy, d'accord, qui avait, eh oui, rappelons-le, supprimé les IUFM et donc la formation des enseignants. Alors j'en retiens une qui me semble plutôt constructive. Elle consisterait à consacrer plus de la moitié de la formation initiale des nouveaux professeurs, donc la moitié des 2 années, à l'apprentissage du métier au sein même des établissements et sous la conduite de professeurs expérimentés. De la théorie donc, mais aussi beaucoup et davantage de pratique avant de les jeter dans le grand bain.
Sarkozy, Libye, fait aussi des propositions sur la durée du temps de travail des enseignants, une de ses marottes, on l'écoute.
Le courage, c'est de dire que la présence des enseignants dans les établissements ne peut plus se limiter aux seules heures de classe. Je veux être sûr d'être bien compris. Il ne s'agit nullement dans notre projet, n'est-ce pas Madeleine, d'augmenter le nombre d'heures de classe de vos enfants. Il s'agit simplement d'augmenter la durée de présence des enseignants dans les établissements scolaires pour soutenir vos enfants qui n'ont pas en classe pu accéder au minimum d'information et de compréhension. Il n'est pas question d'augmenter la rémunération si on n'augmente pas le temps de travail. Il n'est pas question d'augmenter le temps de travail sans augmenter la rémunération. Est-ce que je me fais bien comprendre ?
Oui, oui, il se fait bien comprendre. Apparemment, c'est le retour du fameux « travailler plus pour gagner plus ».
Absolument, Louise. Mais, contrairement à Alain Juppé qui a annoncé lui aussi un chiffre et une promesse d'augmentation de la rémunération des enseignants de 10%, Nicolas Sarkozy, lui, ne s'y risque pas. En revanche, pour espérer bénéficier d'une augmentation, il pose ses conditions, comme vous l'avez entendu, c'est-à-dire passer 25% de temps supplémentaire dans l'établissement, aussi bien pour des cours que pour de l'aide aux devoirs ou des études surveillées. En contrepartie, donc, une rémunération accrue.
Et l'ancien président a d'autres idées en tête.
Absolument, des idées contre l'échec scolaire. Car cette augmentation du temps de travail permettrait de financer les classes CP+, qui seraient dédiées aux élèves les plus en difficulté. Ils seraient repérés dès le premier mois de CP, dit l'ex-président, de façon à être orientés en cours d'année ou à la fin du CP, ça n'est pas très clair, vers un CP+, où ils bénéficieraient d'un soutien personnalisé. La solution proposée pour répondre à l'illettrisme constaté en 6e est donc assez différente de celle d'Alain Juppé, qui propose lui le recrutement de locuteurs en crèche ou en maternelle, afin d'aider les enfants de milieux défavorisés à acquérir un vocabulaire équivalent aux enfants de milieux favorisés afin de ne pas cumuler le retard et se retrouver en décrochage complet en 6e.
Et puis, Libby, une proposition dont on a beaucoup, beaucoup parlé, elle concerne les décrocheurs.
On ne peut plus avoir chaque année 100 000 jeunes qui disparaissent des statistiques. Alors nous allons dire à ces 100 000 décrocheurs que c'est très simple. À partir de l'âge de 18 ans, toute personne qui n'aura pas son bac, qui ne sera pas en stage, qui ne sera pas en apprentissage, qui n'aura pas une formation, eh bien, ira faire un service militaire adapté. Alors, c'est tout simple. Soit vous avez un emploi, soit vous avez une formation, soit vous avez un stage, soit vous êtes en apprentissage, soit vous irez en service militaire adapté.
Et tout cela ne sera pas sur la base du volontariat, a-t-il dit, menaçant les parents de décrocheurs mineurs qui s'y opposeraient de leur supprimer les allocations familiales. Coup de menton, phrase choc et mesures symboliques, comme celle de l'interdiction du voile à l'université, si on peut se réjouir de l'intérêt porté à l'école, on peut regretter, au-delà d'une certaine mauvaise foi, l'absence de cohérence et de vue d'ensemble. Marie-Caroline a évoqué la vive réaction de Najat Vallaud-Belkacem. J'ai rarement vu une tribune avec autant d'énormité, évoquant la tribune du Figaro de Nicolas Sarkozy. Je dirais qu'on peut s'attendre à une véritable confrontation, moi, dans les mois qui viennent sur le sujet de l'école entre la droite et la gauche. Espérons qu'elle permettra de faire bouger les lignes. Mercredi matin, de nombreux invités formulaient le vœu de sortir d'un débat trop souvent idéologique. Mais ce n'est pas vraiment l'impression qu'ils ont donnée.
Nouveau changement d'ambiance de l'UMP, on repasse à la classe de CM1 de l'école Olympe de Gouges de Bondy. Ce sera notre générique de fin. Je remercie tous mes invités. Virginie Blanc, professeure des écoles à Bondy, Nathalie Sutour, conseillère d'orientation, Étienne Butzbach du CNESCO et Aïssa Sago, parents d'élèves engagé. Vous retrouvez le dossier thématique de Canopée et tout sur nos forums sur la page de Rue des Écoles, au moins en lien. Que vous ayez écouté cette émission ce dimanche 10 avril, que vous l'écoutiez en différé, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner à notre podcast. Et pour commenter ce programme, nous parler, me parler, allez sur Twitter avec par exemple le hashtag RDE. La semaine prochaine, la sélection à l'université. Un débat qui sera contradictoire et je pense brûlant. Dans quelques secondes, vous retrouvez Le Monde selon Antoine Garapon. Je vous souhaite une excellente soirée sur France Culture.